c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit « Allahu Akbar ». Après ça, ils ont dit que « Où est l'argent ?» Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel+. Aujourd'hui, au sommaire, problème d'acheminement de l'aide humanitaire dans le nord du Mali. Rareté du poisson au Tchad, malgré la pleine saison. Suite de notre série sur les membres des familles présidentielles en Afrique, aujourd'hui la Guinée. Les problèmes de l'immobilier et de l'habitat au Togo. Rubrique éducation, tollé chez les syndicats d'enseignants du Niger. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel+. Restez avec nous. Certitude au Mali, où l'aide humanitaire ne peut toujours pas être acheminée dans le nord du pays. En raison de l'insécurité persistante, certaines ONG ont été contraintes de suspendre leurs opérations. Reportage à Bamako de Katharina Hodge, présenté par Bagasikoura.
Les récents affrontements dans le nord et le centre du Mali entravent le déploiement de l'aide humanitaire. Du coup, les populations vulnérables ont du mal à avoir accès aux services de base, tels les soins de santé, ainsi qu'à la nourriture et l'eau. Les ONG peuvent accéder à la plupart des zones du pays, mais le banditisme et les attaques armées sur les routes constituent un frein pour les opérations humanitaires. Badjougué Dambélé est le coordonnateur humanitaire d'Oxfam au Mali.
Depuis que l'accord a été signé, on pensait que ça allait s'améliorer, mais on a tendance à voir que la situation, en tout cas, reste très volatile et ça se dégrade.
L'an dernier, le nombre d'incidents hostiles ciblant les organisations d'aide a triplé par rapport à l'année précédente, selon OCHA, le Bureau humanitaire des Nations Unies. La directrice pays du Conseil norvégien pour les réfugiés, Muriel Chop, note pour sa part que la criminalité constitue le plus gros risque pour les agences humanitaires opérant dans la région.
Nous sommes visés très régulièrement pour le vol de véhicules et ainsi de suite. C'est généralement non violent, mais ça rend les opérations difficiles.
Selon Kome Niyongabo, responsable de mission de Médecins sans frontières dans le pays, près d'un tiers de la population du Nord Mali est menacée par la famine.
Nous étions dans l'implantation d'une grande campagne de chimio-prévention des paludismes saisonniers sur toute la région de Kidal. Une campagne qui assure la prévention de tous les enfants de moins de 5 ans au paludisme. Et malheureusement, ça a coïncidé avec la reprise des affrontements, ce qui nous a poussé à reporter la campagne. Nous avons relancé l'activité et l'activité est aujourd'hui en cours.
Les ONG disent être constamment obligés de négocier l'accès aux villages et aux communautés vulnérables. Barthélémy Saouré-Brou est le responsable de la communication du CICR.
Imaginez-vous s'il y a des blessés dans un endroit que nous devons évacuer vers un centre de santé, quand les populations nous appellent, si nous ne sommes pas trop sûrs de la sécurité sur la route, ce n'est pas facile de se lancer automatiquement, immédiatement sur l'axe.
Dans les centres urbains tels que Gao et Tombouctou, la situation s'est quelque peu améliorée. L'aide d'urgence au Mali a continué à baisser depuis 2013. Selon OCHA, le financement actuel ne peut couvrir qu'un tiers des activités du plan d'intervention humanitaire au Mali en 2016.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Tchad, le poisson frais se fait de plus en plus rare sur les marchés de la capitale en ce mois d'août, alors que par le passé, c'est en cette période que le poisson abonde dans les différents marchés et se vend à bon prix. Le constat de notre correspondant André Komadjingar.
Nous sommes au marché moderne de poissons frais situé au quartier Moursal dans le 6e arrondissement municipal de la capitale. Ce marché qui a été inauguré il y a 3 mois a une capacité de conserver les poissons au frais pendant plusieurs jours, ce qui permet aux commerçants détaillants de s'en procurer et les revendre aux consommateurs dans les différents marchés. D'habitude, c'est en août, appelé aussi Chartamani en arabe local qui signifie le mois le plus dur, que les poissons tels que les carpes ou tilapia et le Cynodontus chale ou garga en arabe local inonde les marchés. Malheureusement, cette année, ces poissons préférés des Tchadiens et dont le prix est à la bourse de tous se font de plus en plus rares sur les marchés. Younous Ousmane est le président du comité de gestion du marché moderne de poissons frais.
Ce n'est pas la rareté de poissons en tant que tel. Il y a du poisson au contraire dans le lac. Sauf que ce sont les adeptes de la secte Boko Haram qui écument cette partie du pays qui ont empêché les pêcheurs d'exercer leurs activités.
Pour la présidente de l'Union des organisations de femmes vendeuses du poisson du Tchad, Fahil Agoui, les raisons qui expliquent la rareté des poissons sur le marché sont ailleurs.
Cette carence, c'est dû à l'augmentation des fleuves. Les poissons viennent par période. Les gros poissons sont malins. Quand les pêcheurs vont les pêcher, les gros poissons de très loin, ils voient les dangers, ils se cachent. Tandis que les petits poissons ne sont pas encore mûrs dans l'urance, les pêcheurs arrivent à les capturer. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de bonne qualité de poisson au marché. Pour les premiers de Garga, Garga était un poisson étranger. Garga aussi a sa période. S'il pleut, Garga peut arriver au début des mois de juillet jusqu'à voir première semaine d'août. Donc les autres mois, ce n'est pas la période des Garga. C'est pour cela que vous ne voyez pas le Garga au marché.
Les commerçantes détaillants apprécient diversement la qualité du poisson qui se trouve au marché ces derniers temps.
Maintenant, il y a beaucoup de poissons, mais seulement qu'il y a des petites carpions. Bonne qualité, il n'y a pas assez. Il y a assez seulement que des carpions, là, les petites carpes que les gens n'aiment pas. Là. C'est ça qu'il y en a assez au marché.
Entre-temps, les consommateurs, quant à eux, se rabattent sur les légumes et gombo frais pour assurer le quotidien. André Kodmadingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Suite de notre série sur les familles présidentielles africaines, aujourd'hui la Guinée, où malgré l'interdiction faite aux membres de sa famille de se mêler de la gestion des affaires publiques, le président Alpha Condé fait face aux accusations de corruption contre son fils, qui se trouve être l'un de ses conseillers. Il a demandé que lumière soit faite sur ces allégations. De Conakry, notre correspondant sur place, Zakaria Camara, a recueilli les réactions de la population.
Vrai qu'il est mêlé à toutes les affaires minières ici.
Bon, moi je ne saurais le dire exactement, puisque je n'ai pas d'informations par rapport à ça.
Bien sûr, ils sont impliqués, beaucoup même, surtout son fils.
Son fils est impliqué dans le secteur minier, voilà, et largement même. Ça, c'est reconnu de tous.
Ce que je cherche, la famille n'est pas impliquée de près ou de loin dans la gestion du pays. Sa femme n'est ni ministre, son enfant n'est pas ministre. Il ne gère pas une association ou bien une entité gouvernementale.
Ils ne sont pas nombreux à se réclamer de la famille du président Condé. Ils sont presque absents de la scène politique en Guinée. Au RPG Arc-en-Ciel, on rejette toute accusation contre la famille du président. Souleymane Keïta, responsable des jeunes du parti et conseiller à la présidence de la République.
Vous voyez, le gouvernement, il n'y en a pas, il n'y en a nulle part. Le président est un rassembleur. Il fait la différence entre la gestion de l'État et de ce qui n'est pas État. Donc, ce plan ne se pose pas.
Si le sujet est tabou à la mouvance présidentielle, le député Jean-Marc Téliano, ancien ministre de l'Agriculture, n'y va pas dans la langue de bois.
Quand vous parlez de sable mining, son fils est l'instigateur principal. Vous savez, on a toujours parlé d'audit. C'est Alpha Condé qui est monté sur ses chevaux pour parler d'audit. Mais aujourd'hui, il ne peut plus parler d'audit.
Le 11 mai dernier, le président Condé avait annoncé que la justice guinéenne allait faire la lumière sur les conditions dans lesquelles le britannique Sable Mining a acquis ses concessions minières en Guinée. Une réaction aux accusations de corruption révélées dans un rapport de Global Witness. Des révélations qui ont fait réagir les députés de l'opposition.
Nous avions demandé des enquêtes parlementaires, surtout concernant Sable Mining, et vu l'implication de Boba Sampil et Mohamed Alpha Condé, mais toujours, nous n'avions pas eu d'issue favorable.
Ce n'est pas un fait nouveau que la famille d'un président guinéen soit citée dans une affaire de corruption. Les membres de la famille du feu général Lansana Conté avaient brillé par leur rôle dans les activités politiques et économiques en Guinée. Dans un récent rapport publié par les Panama Papers, figure en bonne place l'ex-quatrième épouse de l'ancien président Lansana Conté dans le scandale de la société BSGR. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Festimo, le salon international de l'immobilier et de l'habitat togolais, a eu lieu à Lomé début août. 3 jours d'exposition doublés de conférences autour de différentes thématiques en lien avec l'immobilier et l'habitat, notamment le foncier. L'occasion pour CellPlus de se pencher sur ces thématiques communes à beaucoup de pays du continent. Reportage Kyle Lawson.
La question foncière est un casse-tête chinois pour les Togolais. Le pays est confronté aux litiges fonciers relatifs à la double vente, à la vente des réserves administratives ou encore aux ventes de terrain par des personnes non habilitées. Le foncier au Togo a été au cœur de la 2e édition du Salon de l'immobilier et de l'habitat qui s'est déroulé du 5 au 7 août à Lomé. Alexandre de Souza, président du Festimo.
Aujourd'hui, les litiges au niveau du tribunal de Lomé, l'immobilier représente 80% de ces litiges. C'est par ignorance, la plupart du temps, que des gens vont occuper des réserves de l'État, que des gens se font vendre des terrains qui sont déjà vendus à d'autres, etc. C'est par ignorance. Et donc, lorsque les spécialistes expliquent, on est prudent pour accéder au terrain, pour acheter quelque chose, vous n'allez pas voir votre oncle ou votre tante, vous allez voir un professionnel pour sécuriser le terrain. Donc, quand c'est le cousin qui vous vend, ben, vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise surprise.
L'universitaire John Aglo a eu à animer une conférence sur les origines et causes du problème foncier au Togo.
Nos problèmes ont commencé véritablement soit avec la colonisation, soit avec les indépendances. C'est-à-dire, on peut considérer qu'avec la colonisation, il y a perturbation de nos modes de vie et donc superposition des législations. Maintenant, après la colonisation, l'indépendance devrait consister en un redressement, en un état des lieux assurant une continuité entre nos valeurs réelles et ce que nous voulons devenir. Malheureusement, il y a eu rupture.
Comment faire pour sécuriser les ventes de terrain dans le pays? La solution résiderait dans la base de données dénommée SlantCall, soutient Jean Yao Evisu, directeur de la structure qui a conçu SlantCall.
SlantCall, c'est un produit qui vient aider les acteurs en foncier à trouver une solution aux problèmes de double vente que nous avons dans le pays. Avant de faire un achat de terrain, nous devons aller chercher les informations pour s'assurer que le monsieur qui veut nous vendre le terrain, c'est le réel propriétaire du terrain. Mais nous n'avons pas ce temps. Donc, SlantCall fait ce travail à la place des potentiels acquéreurs. Nous faisons les enquêtes pour voir si ce n'est pas une réserve de l'État, si c'est une zone déjà approuvée. Donc, à partir de votre téléphone portable, vous envoyez seulement le code d'enregistrement que le propriétaire vendeur doit vous présenter. Si vous envoyez, vous aurez toutes les informations.
Pour que la solution que propose SlantCall soit pérenne, il faut que l'État togolais prenne ses responsabilités, estime le professeur John Aglo.
Je considère que la responsabilité de l'État est engagée, que l'État doit essayer de tenir compte des choses en essayant de faire en sorte que la connaissance prédomine et qu'il y ait articulation entre droit, connaissance et culture. Le magistrat lit le texte de la Constitution sans tenir compte de tout le soubassement culturel qu'il y a derrière cette Constitution et fait croire qu'on est venu redresser un tort. On ne peut pas redresser un tort culturel, on ne peut pas redresser un tort social. On est obligé de faire un travail de refondation. Si ce travail n'est pas fait et qu'on est en train d'appliquer des textes, on a un tort.
Les Togolais sont dans l'expectative d'un nouveau code foncier censé régler définitivement le problème. Le test devrait contenir un certain nombre d'innovations, au rang desquelles la clarification des démarches pour le titre de propriété, la création d'un guichet unique du foncier totalement informatisé et le développement des juridictions spécialisées à Lomé et en zone rurale où les conflits fonciers sont fréquents. Rappelons que les tests en vigueur dans le pays datent de 1906. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Niger, dans le cadre du processus de décentralisation, l'État décide de transférer certaines compétences aux municipalités. C'est ainsi qu'en juillet dernier, le ministère de l'Éducation a annoncé que dorénavant, le recrutement et la gestion des enseignants contractuels se feront par les mairies. Une annonce qui a provoqué un tollé chez les syndicats d'enseignants. Reportage d'Abdoulrazak Idrissa, notre correspondant à Niamey.
C'est un acte provocateur et nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre jusqu'à la dernière énergie.
La décision est fortement contestée par les syndicats, notamment celui des enseignants contractuels. Cette catégorie d'enseignants, bien que n'étant pas des agents titulaires de l'État, est en effet jusqu'ici régie par le statut général de la fonction publique. Moukaila Halidou est le secrétaire général du syndicat.
Comment comprendre que le ministre de l'enseignement primaire, de surcroît docteur de son État, puisse prendre un arrêté pour abroger une loi de la République du Niger? Car pour rappel, depuis le 23 juillet 2007, les contractuels sont régis par le statut général de la fonction publique. Nous voudrions demander au ministre Marty que s'il se trouve dans les nuages, qu'il revienne sur terre. Condamne la démission du président de la République vis-à-vis de l'école publique nigérienne en nommant à la tête du ministère un stagiaire en administration. Informe l'opinion nationale et internationale que le SINASEB se donnera tous les moyens nécessaires afin de faire échec à la banalisation de la fonction enseignante.
Les syndicats d'enseignants et l'opinion de façon générale se demandent aussi comment les communes, pas vraiment viables financièrement, peuvent faire face à de nouvelles charges qu'impliquera cette décision. Face au tollé que sa mesure a suscité, le ministre Daouda Mamadou Marté est sorti s'expliquer.
L'État transfère les compétences et les ressources aux communes. Il ne s'agit pas, comme je l'ai entendu certains dire, qu'on va affecter les enseignants contractuels aux communes et que c'est aux communes de les payer. Si je veux même de leur logique, même si c'est ça, est-ce que moi, ministre de l'enseignement primaire, j'ai le pouvoir de demander à une commune de payer mes enseignants? L'article 5 de cet arrêté, et conformément au décret, dit « La loi de finances prévoit chaque année les ressources financières nécessaires au recrutement et à la gestion des enseignants contractuels. » C'est un processus qui va se poursuivre. La commune est responsable du recrutement des enseignants contractuels dans leur zone de compétence. Ça signifie qu'à l'avenir, quand toutes les dispositions seront mises en place, c'est à la commune qu'on va transférer le recrutement des contractuels. C'est-à-dire que la responsabilité politique, c'est le maire, mais la responsabilité académique et professionnel, c'est l'inspecteur.
Les contractuels représentent plus de la moitié du corps enseignant nigérien. Ils sont payés sur le budget de l'État, mais accusent régulièrement des retards pour entrer dans leurs droits. Beaucoup d'analystes affirment que cette décision de conférer leur recrutement et leur gestion aux communes risque de compliquer davantage la situation. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Michel Joseph. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel, sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec le groupe d'origine soudanaise Al-Sara and the Nubatones pour leur tout dernier titre, Ya Watan. Bonne soirée et bonne nuit à tous. وحيدة ما يدرى بها الزمن الشجر جف لما تهلك الجزع تشقق وتكسر وين يا وطن وين يا زمن ابن من سنين تتمطى وتفلك في جبينك بالألم وين يا وطن وين يا زمن ابن من سنين
bonne mine.